Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, d'échanges et de débats. Il était l'une des plus grandes stars du ballon rond. On l'a appris il y a quelques minutes, la légende argentine du foot, Diego Maradona, s'en est allé. Et à la fin, comme toujours, il marque. Diego Maradona, champion du monde 86, est donc mort ce soir. Il avait 60 ans. On y reviendra très largement, évidemment, dans le journal. On s'intéressera aussi aux fêtes de Noël. Le président l'a dit, on pourra se déplacer à partir du 15 décembre. Comment échapper à la grande pagaille dans les gares? Les réservations ont bondi de 400% hier soir. Et qu'en est-il des avions? Faudra-t-il se faire tester avant de monter à bord? On posera la question au ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Il est ce soir notre invité dans 15 minutes. 18h30, le Club des Grandes Voix avec ce soir Didier Roustan. Pour évoquer précisément la figure et la légende Maradona, il sera avec nous, Didier Roustan. 19h15, le Club des Idées, comment passer de bonnes fêtes en famille sans aucun risque. Nombreux invités, distance à table, eh bien, avec nos interlocuteurs, on vous dira tout pour se préparer à ces vacances qui ne seront pas comme les autres, comme l'a dit le Président de la République. Voilà pour le programme, d'abord le journal avec vous, Isabelle Millet, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Génial, génial, un mot qui le distingue bien, Diego Maradona, qui s'est donc éteint aujourd'hui en Argentine. Il avait 60 ans, on va y revenir évidemment dès le début de ce journal. Maradona, l'auteur de la légendaire main de Dieu en 86 face à l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde. Sans doute le plus grand de tous les footballeurs, le génial gaucher. On sera à Buenos Aires avec la correspondante d'Europe 1, avec le chef du service des sports bien sûr, qui nous rappellera son incroyable carrière et on entendra aussi les réactions.
Dans le journal également ce soir, les suites de l'allocution d'Emmanuel Macron hier et les questions encore sans réponse auxquelles doit répondre demain matin le Premier ministre.
Quid des bars? Quand pourront-ils rouvrir? Et les lieux de culte? 30 personnes maximum ou bien la jauge va-t-elle être revue à la hausse? Et pour les cinémas et les théâtres, à quelle heure la dernière séance?
On détaille tout ça dans le journal et on verra que les commerçants, eux, sont dans les starting blocks pour la réouverture des samedis.
La Bourse de Paris a terminé ce soir en hausse de 0,23% à 5571 points.
Elle aussi à la main de Dieu. Anissa, bonsoir. Un coup d'œil à la météo avec vous. Demain va ressembler à aujourd'hui.
Oui, avec des nuages et de la pluie en Bretagne. Dans le sud, également un temps agité, des températures plus douces à l'est. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et pour commencer ce journal, donc on l'a appris il y a quelques minutes, la disparition de la légende Diego Maradona.
Et on va tout de suite, Julien, à Buenos Aires, rejoindre la correspondante d'Europe 1, Aude Villiers-Moriamé. Bonsoir Aude.
Bonsoir.
On imagine le drame national que représente ce soir la mort de l'idole du pays.
Oui, évidemment, il y a beaucoup d'émotions dans le pays d'origine de Diego Maradona. Ici, vous l'avez dit, bien sûr, c'est une idole, c'est Dios, tout simplement, c'est Dieu. Alors, beaucoup ont du mal à y croire. Une partie de l'Argentine est décédée, peut-on lire sur les réseaux sociaux. Le président Alberto Fernandez vient lui-même de réagir. Tu nous as rendus énormément heureux, tu as été le plus grand de tous. Merci d'avoir existé, Diego. Dans les rues de Buenos Aires, j'ai pu parcourir là récemment. C'est vraiment le choc qu'on peut lire sur le visage des Argentins. Certains sont émus jusqu'aux larmes. Voilà, l'entraîneur du club Gimnasia avait été opéré le mois dernier, il faut le rappeler, d'un hématome au cerveau. Il a été victime il y a quelques heures d'un arrêt cardiaque fatal donc dans sa maison de Tigré, c'est en grande banlieue de Buenos Aires. Il faut rappeler que l'ancien joueur star de 60 ans avait une santé fragile et ce depuis déjà des années.
Vous disiez que les Argentins s'identifient à Diego Maradona, que certains étaient en larmes. Il paraît que même les journalistes pleuraient en annonçant la nouvelle tout à l'heure.
Oui, il paraît. Évidemment, tout le monde est très, très ému. Vraiment, c'est une star ici, Diego Maradona, celui qui incarne un peu les rêves de tous les enfants qui sont fanatiques de football, un sport évidemment capital ici en Argentine. Diego Maradona, issu d'un bidonville en grande banlieue de Buenos Aires, qui a une carrière extrêmement rapide et importante pour le pays. Quelqu'un qui a offert à l'Argentine la victoire en 1986 au Mondial et qui a offert surtout ce moment, la mano de Dios, en quart de finale contre l'Angleterre. Donc évidemment, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup marqué le pays, qui continuait de le faire. Il y aura sans doute des rassemblements qui seront organisés ce soir un peu partout dans le pays. C'est encore un peu trop tôt pour dire, il est que 14h.
Oui, c'est ça, il n'est que 14h à Buenos Aires où vous êtes en direct. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Aude Villiers-Moriamé, correspondante d'Europe 1 à Buenos Aires.
Oui, ce soir, les autorités à Buenos Aires annoncent trois jours de deuil national pour l'ensemble du pays, donc l'Argentine. On vous retrouve à présent Jean-François Pérez, vous êtes chef du service des sports d'Europe 1 et en ligne avec nous dans l'histoire du foot. Il y a évidemment Pelé, il y a Zidane, il y a Platini et il y a Diego Maradona. C'était le plus grand d'entre tous ?
C'était l'un des plus grands sans doute. Après, question palmarès, il y en a qui ont remporté plus de trophées. Mais lui, c'était spécial. Voilà, Maradona, c'était un type absolument unique. Et on peut rappeler simplement son plus grand fait d'armes, qui était la Coupe du Monde 1986, à un moment où l'Argentine est en plein conflit contre l'Angleterre dans les îles des Malouines. Et Maradona marque ce fameux but qui dépasse le simple cadre du football, un but marqué de la main. On lui demande, mais vous l'avez mis de la main, ce but ou pas ? Oui, je l'ai mis de la main. La main de Dieu, et il est devenu l'idole de tout un pays, bien sûr, à ce moment-là. On me dirait qu'il n'y avait pas forcément besoin de ça non plus, mais il avait réussi une Coupe du Monde 86 extraordinaire, ponctuée d'exploits individuels, de buts entrés dans la légende du foot, y compris en finale d'ailleurs, où il aura été décisif. L'Argentine gagne cette Coupe du Monde 86 au Mexique, sur le continent américain. C'était un exploit et un événement absolument extraordinaire. D'ailleurs, je pense qu'on peut se refaire plaisir encore avec ces archives d'époque et cette Coupe du Monde 1986 et cette folle chevauchée de Maradona face aux Anglais. Voilà, vous voyez ce que Maradona pouvait engendrer comme type d'émotion. Il y a très peu de joueurs dans l'histoire du foot qui ont réussi à donner autant d'émotions aux amoureux de sport et de foot. D'ailleurs, Maradona avait une église en Argentine, l'église maradonienne, c'est très sérieux, parce qu'il a apporté beaucoup plus que des simples choses footballistiques. Voilà, c'était quelqu'un qui prenait le football pour une totalité. Voilà, c'était quelqu'un qui avait débuté en équipe d'Argentine à 17 ans à peine. La Coupe du Monde, on en a parlé, et on va parler de Naples aussi également, parce qu'à Naples, c'est là-bas que tout s'est passé pour lui. C'est là qu'il est devenu une idole à la fois à Naples, mais aussi pour l'Argentine, parce qu'il a amené ce club, ce modeste club italien, au sommet du foot national et européen aussi. C'était tout ça, Maradona. C'était aussi un personnage larger than life, comme disent les Anglais, plus grand que la vie, avec une vie de roman, avec ses très hauts et ses très bas, mais on va en reparler, j'imagine.
Oui, c'est ça, c'est un champion qui avait des faiblesses, mais justement, ces faiblesses le rendaient touchant hein, aux yeux de son public, de ses fans.
Ouais, c'était un homme vrai, voilà. Alors il l'admettait, c'est quelqu'un qui sortait des bidonvilles de Buenos Aires, qui n'avait pas eu une grande éducation, qui n'avait pas forcément beaucoup de mondanité en lui, on va dire. Il était parfois un peu vulgaire, mais il était lui-même, quoi. Et il était tout le temps franc, il était tout le temps sincère. Le problème et l'apogée de sa vie, ça a été Naples, parce que à Naples, il est arrivé comme un grand footballeur qui avait besoin de se relancer après une expérience difficile à Barcelone, et à Naples. Il est devenu quelqu'un de plus important que ça, mais avec le succès est venue aussi la drogue. Et il a plongé dans la cocaïne. Ça lui a valu des suspensions d'abord pour dopage. Ça lui a valu ensuite un arrêt cardiaque, puis sans doute une hépatite dans les années 2000. Et sa santé était extrêmement abîmée. Et ce soir, je me trouve à Marseille. C'est un hasard parce qu'il y a un match de Ligue des Champions ici. Et Marseille, c'est la dernière ville en France où Diego Maradona est venu. C'était en 2009. Il avait failli signer à Marseille au début des années 90, quand Bernard Tapie en était le président. Là, le transfert ne s'était pas fait pour des histoires, notamment de rapports un petit peu difficiles entre Maradona, les dirigeants napolitains et sans doute la mafia napolitaine. Et Maradona avait reçu un accueil incroyable ici à Marseille. Je vous propose de l'écouter. Il s'était senti un petit peu comme à la maison pour sa dernière apparition en France.
On me reçoit comme si j'avais joué à Marseille. J'étais proche de Bernard Tapie pour venir jouer à Marseille, mais ça ne s'est pas fait.
Voilà, c'était il y a une dizaine d'années. Depuis, Maradona a écumé les continents et les expériences pas forcément heureuses au poste d'entraîneur, avec une santé toujours vacillante. Il était même allé se faire soigner chez Fidel Castro, qu'il présentait comme son père spirituel. Il l'avait guéri plusieurs fois, il était revenu, il était reparti. C'était tout ça, Diego Maradona. Sa dernière expérience, ça restera celle d'entraîneur de La Plata à Buenos Aires. Son dernier club, sa dernière expérience. Et aujourd'hui, c'est tout un peuple, et en général, le peuple du foot et du sport qui le pleure, parce que c'était un type vraiment unique.
Jean-François Pérez, vous restez avec nous, évidemment. Je voudrais juste qu'on écoute la réaction, après cette disparition de Maradona, de Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Foot.
Un joueur impressionnant, peut-être le meilleur, bon, qui a fait des choses techniquement invraisemblables. Oui, bon, c'est un dribbleur hors pair, hein, pour un moment. regardez un certain nombre de ses buts. Hein, il a été capable de dribbler 4, 5, 6 joueurs et marquer. Il était beau à voir jouer. C'est un personnage atypique, très atypique, bien évidemment. Mais si on juge que le footballeur, c'est quand même, il fait partie des meilleurs, des tout meilleurs.
Voilà le génie de Maradona, salué par Noël Legrette, le président de la Fédération française de foot, avec Julien Froment. Un génie salué également par notre consultant à Europe 1, Giroud.
Alors, c'était un joueur complètement génial, qui avait les dons, comme il l'a dit, les dons de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'a il a pas beaucoup appris. Je pense qu'à 14 ans, il jouait déjà aussi bien qu'à 22, dans les équipes d'Argentine. Et ensuite, sur le plan du football, il a toujours été merveilleux. Et puis, il y a l'épisode au Mexique, où il y a deux épisodes formidables. Il y en a un qui a marqué le but de la main. Mais étant donné que c'était un homme facétieux, merveilleux, etc., pour lui, on acceptait même ce péché-là. Et l'autre, il a dribblé tout le monde et il a marqué le but contre l'Angleterre. Mais sur le plan de la personnalité, et peut-être avec l'appui de la gloire qui lui nuisait beaucoup, il s'est passé beaucoup de choses.
La réaction de Giroud, consultant foot d'Europe 1, à cette disparition de Diego Maradona.
Et Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1, qui est toujours avec nous. Jean-François, vous évoquiez tout à l'heure l'historique avec le club de Naples. Eh bien, sachez que ce soir, le club de Naples, son ancien club, donc le salue cette disparition. Ciao Diego. Voilà, je suis en train de lire la dépêche AFP qui nous parvient à l'instant. Peut-être simplement un mot aussi de la suite de Diego Maradona, joueur extraordinaire, joueur de légende, mais piètre entraîneur. Comment vous l'expliquez ça?
Bah vous savez, les grands joueurs ne font pas forcément les plus grands entraîneurs. Le problème, c'est que quand on a été Diego Armando Maradona sur la pelouse, on a tendance à vouloir que ces joueurs fassent la même chose. Or, c'est absolument impossible. Et Diego Maradona, à la fois, avait une exigence technique qui était, je vous le dis, quasi impossible à tenir pour la plupart des footballeurs professionnels, mais il avait aussi un manque de rigueur qui était incontestable. Et quand on est entraîneur aujourd'hui, pour arriver à construire un palmarès, une équipe, quel que soit le niveau qui est le vôtre, parce que Maradona aura entraîné finalement dans les Émirats, on n'en a pas forcément parlé, Giroud évoquait le Mexique, l'Argentine, évidemment ça a été une sorte de globe-trotteur, mais il n'arrivait pas à se fixer, parce que tout simplement sa vie à côté n'était pas suffisamment stable pour que Maradona, le joueur, l'idole des terrains, devienne Maradona, le grand entraîneur. On retiendra quand même qu'il a été le sélectionneur de l'Argentine entre 2008 et 2010, ça a été sans doute son plus grand moment. Ça n'a pas été simple non plus. Il était en guerre tout le temps avec les journalistes argentins parce qu'ils sentaient bien qu'on le critiquait et il n'était pas habitué à ça. Mais au moins aura-t-il essayé. Voilà. Et il sera mort comme entraîneur, un petit peu comme Molière qui est mort sur scène en tant qu'acteur de théâtre et réalisateur. Maradona aura tout fait dans son sport, le football. Il n'aura pas été l'entraîneur au niveau que le joueur était. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. Voilà. Ce soir, on retient avant tout le génie du foot, celui qui nous rendait des yeux d'enfant dès oui. qu'on le voyait sur la pelouse avec des exploits techniques absolument extraordinaires.
Merci Jean-François Pérez et on vous retrouve évidemment, chef du service des sports d'Europe 1, on vous retrouve évidemment dans un quart d'heure pour les grandes voix dédiées ce soir à la légende Maradona.
Europe 1, Julien Bugier.
18h12, vous restez avec nous dans un instant, la suite du journal. On parlera de cette France qui s'apprête à retrouver un peu de vie normale.
Avec encore quelques incertitudes qui n'ont pas été levées hier soir par Emmanuel Macron, c'est Jean Castex qui donnera les précisions demain matin.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
18h14, la suite de votre journal. Un peu plus de 29 millions de Français étaient à l'écoute d'Emmanuel Macron hier soir pour son allocution. Le chef de l'État a donc confirmé l'allègement du protocole sanitaire, mais il laisse à son Premier ministre Jean Castex le soin d'en détailler la mise en place concrète.
Oui, et pour cela, il faudra donc attendre demain matin 11h. Jean Castex répondra aux questions encore sans réponse. Il y en a beaucoup, hein, preuve de la difficulté de la mise en œuvre de ces mesures. Ces questions sans réponse, on va les passer en revue maintenant ensemble, sachant que des négociations sont encore en cours. Alors on sait que les commerçants pourront rouvrir dès samedi. En revanche, Emmanuel Macron a écarté tout espoir concernant une réouverture des restaurants pour les fêtes de fin d'année. Ce ne sera pas avant le 20 janvier, si tout va bien. Encore de la patience donc pour les restos. Et qu'en est-il pour les bars, Carole Ferry?
Alors écoutez, pour les bars, c'est simple. Pour l'instant, il n'y a aucune date. Si l'épidémie montrait une impressionnante accalmie en janvier, il pourrait peut-être rouvrir le 20. Enfin, ce qui se dessine plutôt, c'est d'abord une réouverture des restaurants Et si tout se passe bien, débarque ensuite, peut-être autour du 1er février, peut-être même plus tard. Mais quand on parle de bar, attention, hein, je parle vraiment des bars festifs, ceux qui ne servent pas du tout à manger. Pareil pour les discothèques. Alors tous ces établissements vont être indemnisés, Emmanuel Macron l'a confirmé. Ils pourront récupérer jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires de l'an dernier sur la période de fermeture. Une mesure évaluée à 1,6 milliard par Bercy. Et puis il faut signaler que les hôtels attendent toujours de savoir à quoi ils auront droit. Comme ils ne sont pas fermés administrativement, ils n'ont pas le droit aux mêmes aides. En même temps, tant que les restaurants sont fermés, personne ne va à l'hôtel. Donc, leur situation est à l'étude en ce moment même.
Les précisions de Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Autre secteur qui attendait fébrilement les annonces du chef de l'État, la culture.
Oui, la culture. On devrait pouvoir retourner au cinéma et au théâtre à partir du 15 décembre. Mais là aussi, il y a quelques inconnus sur les modalités, Diane Chénouda.
Oui, d'abord, il faut que les conditions sanitaires soient réunies. Si c'est le cas, bien sûr, les cinémas et théâtres pourront rouvrir avec cette fois un système d'horodatage pour les représentations de fin de journée qui permettra aux spectateurs de rentrer chez eux malgré le couvre-feu, c'est-à-dire qu'après 21h, le billet de cinéma ou de théâtre servira de passe-droit. Mais les cinémas, par exemple, pourront-ils sauver la séance de 20h ? Pas de certitude à 100% pour l'instant, mais Richard Patry, le président de la Fédération national des cinémas français, est confiant.
C'est notre objectif. Si ça se passe bien dans les 3 semaines, je pense que nous pourrons aboutir à pouvoir organiser une séance de 20 heures, ce qui est important, ce qui laissera à nos concitoyens la possibilité de faire leurs courses de Noël en centre-ville et puis ensuite d'aller au cinéma et de pouvoir rentrer chez eux avec comme justificatif leur ticket de théâtre ou de cinéma qui leur permettra de rentrer chez eux.
C'est important car la séance du soir pour les cinémas, c'est presque la moitié de leurs entrées. C'est donc aussi une question cruciale également pour les théâtres et les opéras qui est en cours de discussion interministérielle. On devrait en savoir plus, on l'espère demain ou dans les tout prochains jours.
On l'espère en effet. Merci Diane Chénouda du service culture d'Europe 1.
La météo avec Anissa qui nous a rejoint tout à l'heure, Isabelle. La météo, comme aujourd'hui, la journée commence avec beaucoup de grisailles demain matin.
Oui, au nord de la Loire, Julien, nous aurons en effet encore demain pas mal de nuages bas et de brouillard. Ces grisailles vont tarder à se dissiper, notamment sur le Val de Saône, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. En Bretagne, le ciel reste encore couvert demain matin avec des petites averses. Au bord de la Méditerranée, le vent d'autant se renforce, hein, jusqu'à 90 km/h en rafale. Sur le Languedoc, le Roussillon et les Cévennes, il pleut toute la journée demain. C'est vraiment sur le golfe du Lion que la journée sera la plus agitée demain. Sur les Pyrénées, nous aurons des flocons à partir de 2000 mètres. Et puis, entre la Bretagne et les Cévennes, eh bien là, c'est un temps calme, sec et ensoleillé. Les températures, elles sont toujours un peu fraîches le matin, avec moins 2 à Strasbourg, moins 1 à Colmar et Dijon, 2 à Clermont-Ferrand, 3 à Paris et 11 à Toulouse. Et puis, au meilleur de la journée, il fait un peu plus doux. Vous allez le sentir demain avec 10 à 18 degrés. 10 pour Nancy, 12 à Paris et 18 pour Marseille.
Merci ma chère Anissa. On vous retrouve tout à l'heure et puis à 19h pour un nouveau point météo.
Europe 1, Julien Bugy.
18h18, vous restez avec nous dans un instant. On va continuer à parler de la légende Maradona, disparue donc aujourd'hui à l'âge de 60 ans. On l'a appris en fin de journée. Et puis, notre invité dans quelques secondes. Y aura-t-il des trains pour tout le monde à Noël? On posera la question au ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
Et ce soir, notre invité à 18h20, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Bonsoir.
Bonsoir à vous.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai qu'on a beaucoup de questions, évidemment, à vous poser ce soir après l'allocution du chef de l'État. Peut-être d'abord un mot et une réaction sur cette disparition. Le légendaire Diego Maradona s'en est allé aujourd'hui à l'âge de 60 ans. Est-ce que c'est un personnage qui, dans votre jeunesse, peut-être dans votre jeunesse sportive et footballistique, oui, vous a inspiré?
C'est vrai que c'est un peu une triste loi des séries avec Christophe Dominici hier, fameux rugbyman, et puis Maradona. Ouais, c'est vrai que je suis un peu plus rugby que foot, mais je reconnais que c'était un génie absolu. Puis je me souviens, vous faisiez référence à nos jeunes années, les vignettes Panini et cette incroyable équipe d'Argentine. Donc, mais c'est vrai que ça restera, je crois, quelqu'un avec un tempérament, une personnalité absolument incroyable et puis un génie ballon au pied qui savait absolument tout faire.
Oui.
Avec un physique, d'ailleurs, on ressemble un peu à Messi maintenant. Aujourd'hui,
c'est vrai.
Filiation, quoi.
En tout cas, l'un des plus grands joueurs de tous les temps.
Absolument.
Merci pour cette réaction, Jean-Baptiste Djebbari. Alors, les Français pourront donc passer les fêtes de fin d'année en famille, avec vigilance, bien sûr. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous confirmer ce soir, comme l'avait dit la SNCF, que 100% des trains circuleront pour les fêtes? Et surtout, à partir de quand? Est-ce que ce sera dès le 15 décembre, date à laquelle on aura le droit de circuler, ou un peu après?
Non, absolument. C'est ce que je leur avais demandé il y a maintenant 2 semaines, d'être en ordre de marche pour la mi-décembre. Et donc, d'avoir à la fois 100% des trains en capacité de circuler et puis d'ouvrir les réservations suffisamment tôt pour éviter les effets d'engorgement. C'est donc ce qu'ils ont fait. Et c'est vrai que hier, les annonces présidentielles ont eu un effet assez fort sur le volume de réservation.
Les ventes ont bondi 400% sitôt l'allocution terminée.
Ouais. 70 000 commandes en quelques heures. Et donc, moi, ce que je leur avais demandé, ce qu'ils ont fait évidemment, c'est d'avoir aussi une politique tarifaire qui soit adaptée et d'avoir notamment des petits prix. Et la SNCF a confirmé aujourd'hui avoir mis en vente 4,5 millions de billets, dont un tiers de petits prix, avec des billets allant de 20 à 50 euros et au-delà. Et je crois que c'est important aussi pour que les Français puissent réserver en confiance, sachant qu'évidemment, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, les billets restent échangeables et remboursables sans frais.
C'est important de le rappeler. Absolument. Alors, Jean-Baptiste Djebari, est-ce qu'un protocole sanitaire particulier sera mis en place dans les trains? Parce que c'est vrai que ça va faire beaucoup de monde, 5 millions de personnes attendues dans les gares. C'est l'un des plus grands week-ends de chassés-croisés dans les gares de l'ensemble de l'année. Ça fait beaucoup de gens qui vont se bousculer dans les gares, dans les trains. Comment éviter les contaminations?
On a déjà un peu vécu la scène, entre guillemets, puisque pendant le mois d'été, nous avons eu 20 millions de voyageurs tout cumulés, avec des protocoles sanitaires très stricts, avec évidemment le port du masque obligatoire, qui dès le premier jour a été extraordinairement bien respecté dans les trains et plus largement dans les transports en commun, avec le gel, avec évidemment beaucoup de travail et beaucoup d'informations pour éviter que se croisent les flux. C'est important avec l'affichage des quais, par exemple, 30 minutes à l'avance. Ça évite, là aussi, d'avoir des effets d'engorgement. Et donc, tout ce protocole sera évidemment au rendez-vous pour se chasser croiser des fêtes. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, il est stable. Hein, jusqu'à présent, il a montré, je crois, sa grande efficacité.
Mais j'ai une question un peu naïve à vous poser. Pourquoi ne pas avoir mis en place dans les gares les fameux 8 mètres carrés qu'on demande d'appliquer aux magasins et aux grandes surfaces? Ils seront... respecter dans les gares ces 8 mètres carrés, on a du mal à y croire quand on voit l'engorgement sur les quais avant que les voyageurs montent dans les trains.
C'est une question qu'on s'était posée au tout départ en vue du 11 mai pour le déconfinement. Mais par nature, une gare, c'est une zone de flux où les gens se déplacent, restent finalement très peu fixes en dehors de leur siège.
Donc le risque est moins important que dans les magasins.
Surtout, on a essayé de faire en sorte d'avoir des flux qui se croisent le moins possible et d'avoir structurellement beaucoup d'espace, et on a beaucoup d'espace en gare. On avait mis des signalétiques au sol pour matérialiser à l'époque le mètre de distance. On a matérialisé dans les halls de gare le siège sur deux qui est neutralisé. Donc tout ça reste évidemment valide, et je crois que d'une manière générale, le protocole sanitaire dans les transports qui est stable depuis le 11 mai dernier aura encore à prouver son efficacité, mais qu'il est maintenant très bien intériorisé, très bien compris par
les trains, monsieur le ministre, et les avions, est-ce que 100% des vols domestiques d'Air France fonctionneront? On sait que la compagnie avait réduit à 50%, je crois, son programme de vol.
Non, je pense pas 100%, parce qu'il n'y aura certainement pas de demande pour 100% des vols. Ouais. Vous savez qu'aujourd'hui, notamment sur les vols internationaux, y compris européens, il y a encore des restrictions.
Je pensais plutôt aux vols domestiques.
Mais les vols domestiques, certainement, vont remonter. Il faudra regarder un peu en détail quels sont les volumes de réservation. Les Français sont assez... précautionneux.
Oui.
En moyenne, ils attendent la très grande majorité des Français attendent les 10 derniers jours pour pouvoir réserver. Donc je pense qu'on aura à nouveau cette attitude-là précautionneuse des Français. Ouais. Et en fonction, notamment Air France et les autres compagnies.
Et concernant les aéroports et les avions, est-ce que les tests antigéniques qu'on nous promet depuis maintenant plusieurs mois sont arrivés et sont efficaces pour tous les voyageurs?
Ça marche très bien. Ça marche très bien. Je suis rentré hier d'une destination un peu lointaine pour les besoins du ministère des Transports. Nous avions des tests antigéniques à l'arrivée à 5h30 du matin. Nous avons lancé les tests antigéniques à Orly pour protéger les Outre-mer il y a maintenant 3 semaines, à Roissy pour les arrivées et pour les départs. Ça marche très bien. Des aéroports également régionaux ont joué le jeu. Je pense à Nice, qui très rapidement, avec Christian Estrosi, a pris ce sujet en main. Donc ça marche très bien. On va encore massifier de plus en plus l'offre. Mais c'est vrai que les tests antigéniques permettent à la fois de recréer de la confiance vis-à-vis des passagers, et puis aussi de créer de la sécurité sanitaire en dur, si je veux dire.
Je vous pose la question, Jean-Baptiste Djebari, parce que les compagnies aériennes, certaines en tout cas, commencent à réfléchir à un passeport sanitaire pour prendre l'avion. Vous avez vu cette annonce hier qui a été faite par la compagnie australienne Qantas. Est-ce que vous seriez favorable à ce que les compagnies aériennes, et on pense évidemment Air France, puisque l'État est actionnaire, demandent une vaccination obligatoire pour monter dans un avion?
Alors, c'est un peu deux choses différentes. D'abord, Qantas s'est exprimé... peut-être de façon un peu indépendante.
Mais ça pose la question du passeport sanitaire.
Mais c'est vrai. Mais cela dit, moi, ce que je ressens, c'est que beaucoup de compagnies aériennes, beaucoup d'États ont dit que le vaccin serait sur la base du volontariat, donc pas obligatoire. Et par ailleurs, l'OMS va mener une réflexion pour connaître et savoir, et peut-être édicter des lignes directrices pour savoir comment on utilise les vaccins de façon internationalement harmonisée. Donc je pense qu'il faudra avoir cette discussion-là. Ce qui est sûr, c'est que le passeport sanitaire tel qu'il est envisagé aujourd'hui par les autorités de l'aviation civile, c'est plutôt une application qui permet d'avoir accès à l'ensemble des formalités, de les remplir plus facilement, et donc de gagner du temps quand à bord vous remplissez le formulaire écrit. Donc je pense qu'on aura, au cours des semaines qui viennent, des discussions très importantes au niveau européen, au niveau international, pour harmoniser tout cela, et qu'on n'ait pas des effets effectivement de dissymétrie entre les uns qui promeuvent des solutions et d'autres qui font l'inverse.
Vous êtes inquiet sur la situation qui s'annonce pendant les fêtes, avec ces millions de Français qui vont voyager d'une région à l'autre, d'un département à l'autre, en utilisant les transports en commun? C'est un sujet d'inquiétude pour vous?
Vous savez, moi j'ai toujours fait le pari de la liberté et de la responsabilité. Ouais. Je pense qu'on a tous beaucoup changé. Moi le premier, maintenant que je suis avec mes proches, y compris chez moi en famille, je porte le masque. Vous voyez, je pense qu'on a tous beaucoup évolué, beaucoup changé, qu'on a une conscience très aiguë de la gravité de ce virus, qu'on sait aussi qu'on joue en quelque sorte, nos restrictions à l'occasion de ces vacances de Noël. Donc je pense qu'on fera tous preuve d'une grande conscience, d'une grande, comment dirais-je, un comportement très positif de façon collective.
Un civisme, une forme de civisme.
C'est le mot que je cherchais, merci de me l'avoir retrouvé.
Bien.
Et en tout cas, je fonde cet espoir-là et j'espère que ça nous permettra aussi d'aller vers des horizons beaucoup plus heureux, ce qui ne serait pas du luxe en ce moment.
Vous avez raison de le rappeler. Merci infiniment pour cette interview, monsieur le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
18h28, vous restez avec nous. Dans un instant, le rappel des titres. Et puis, on reviendra évidemment sur la légende Maradona avec les grandes voix de ce soir, du mercredi. On reviendra sur cette légende Maradona. 60 ans, il avait 60 ans. Il est décédé aujourd'hui. On l'a appris il y a quelques instants. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec le rappel des titres à 18h30, Isabelle Millet.
Et une actualité dominée bien sûr par la disparition à 60 ans de Diego Maradona, la légende du foot, victime d'une crise cardiaque chez lui. Les Argentins sont en larmes ce soir. Le pays décrète 3 jours de deuil national. Les hommages affluent du monde entier, notamment de Naples, le club dans lequel Maradona a connu son âge d'or. Ciao, Diego. J'espère qu'un jour nous pourrons jouer ensemble au ciel, dit Pelé. C'est notre passé qui s'en va, réagit Michel Platini. Et tous les amateurs de foot se repassent ce soir en boucle les images de ce chef-d'œuvre, cette main de Dieu du magicien Maradona face à l'Angleterre en 1986. Maradona, un génie qui avait ses faiblesses et ses failles, lui qui avait abusé de la drogue notamment. Notez qu'une minute de silence aura lieu ce soir et demain lors des rencontres de Ligue des Champions et d'Europa League. Puis l'actualité, c'est aussi le Premier ministre qui va détailler demain à 11h les mesures d'assouplissement annoncées hier soir par le Président de la République. Il pourrait fixer une nouvelle jauge pour les lieux de culte et préciser les modalités de réouverture des cinémas, des théâtres et des salles de spectacle à partir du 15 décembre.
Merci Isabelle. La météo avec Anissa qui nous a rejoint et qui nous annonce une journée plutôt pas mal demain. En tout cas, semblable à aujourd'hui,
voilà.
C'est ça ?
Si vous avez aimé la journée d'aujourd'hui, vous allez aimer celle de demain, parce que nous avons quasiment la même chose, avec encore sur la moitié nord demain matin et même jusque sur l'Occitanie des grisailles matinales. Attention, la visibilité est très réduite, les brouillards seront assez épais demain et ils auront du mal à se dissiper encore sur la moitié nord. En Bretagne et sur le Cotentin, le ciel est couvert, mais le temps redevient sec. C'est dans le sud, en fait, que la journée est la moins agréable, avec sur les Cévennes, le Languedoc et le Roussillon, de la pluie toute la journée et puis le vent d'OTAN qui souffle encore plus fort demain puisque nous aurons des rafales jusqu'à 90 km/h. Les températures, toujours fraîches le matin, moins 2 à Strasbourg, 11 degrés pour la maximale demain du côté de Toulouse et puis toujours demain après-midi, un temps agréable et doux pour la saison avec 10 à 18 degrés.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure à 19h.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h33, place au débat des grandes voix spéciales football évidemment ce soir avec la disparition de la légende du foot, Diego Maradona. Il s'en est allé, il avait 60 ans. Le champion argentin, on va en parler ce soir avec Pierre-Louis Basse, notamment avec Jean-François Perret, chef du service sport d'Europe 1, avec Jean Garrigue, historien. Bonsoir Jean.
Bonsoir.
Avec Pascal Boniface qui est également avec nous par téléphone, spécialiste de l'économie du foot et grand passionné évidemment de football et de Maradona. Hervé Gattegno, bonsoir Hervé.
Bonsoir.
Directeur des rédactions de Paris Match et du JDD. Peut-être Hervé Gattegno, d'abord une réaction sur l'homme, ce qu'il était, ce qu'il représentait, ce qu'il incarnait, Diego Maradona.
Ben c'était un personnage extraordinaire comme il en existe finalement assez peu dans l'histoire du sport, c'est-à-dire quelqu'un qui dépasse de très très loin les limites de son sport, qui rend son sport, sa discipline attractive pour tout un tas de gens qui en l'occurrence n'aimaient pas le football, c'était beaucoup ça Maradona. Et puis c'est le moment où sur certains individus l'histoire est remplacée par la légende en fait. Donc oui. Donc c'est une autre dimension. C'est donc quelqu'un qui a des performances sportives extraordinaires, qui est capable d'accomplir des exploits sportifs extraordinaires. Mais c'est quelqu'un qui par sa vie, par son tempérament, par ses malheurs, accède à une dimension supérieure. C'est-à-dire que c'est celle de ces champions dont on se souviendra oui. très longtemps. Pas seulement à cause de leur performance.
Oui, le plus grand joueur de football de tous les temps. Il avait été sacré d'ailleurs comme le meilleur joueur du XXe siècle. Alors vous parliez de ses coups de génie. C'est le cas de sa chevauchée fantastique contre l'Angleterre, 2-1 lors de la Coupe du Monde 86 au Mexique. Souvenez-vous. Alors les commentaires argentins, évidemment, rajoutent un peu de la superbe à l'action et au but, Jean Garrigue. Mais c'était quand même un phénomène, Maradona.
Oui, mais...
et c'est vrai que Hervé Gattegnaud le disait, au-delà du football, il transcendait, c'était l'idole de tout un peuple.
Bah, c'était l'idole des Argentins, parce qu'il ne faut pas oublier que ces buts-là, ils sont marqués en 1986, où ils gagnent la Coupe du Monde contre les Britanniques. Ouais. Et on est en pleine guerre des Malouines. Et donc la signification de ce but, c'est une signification patriotique.
C'est vrai.
Et on parlait de chef-d'œuvre. Ça, c'est le vrai chef-d'œuvre. Parce que l'autre but, le but de la main, là, ça fait partie de la légende, comme le disait Hervé. Mais c'est pas le vrai chef-d'œuvre footballistique. De toute façon, c'était un génie du football, ça c'est sûr, mais qui dépassait bien largement. Et donc cet aspect-là a fait qu'il a incarné l'Argentine et qu'il l'incarne toujours. Je pense qu'il est plus populaire aujourd'hui que Lionel Messi. Et, ah oui, oui. Et il est aussi très, très populaire à Naples. Ouais. Il a joué pendant 2-3 ans.
C'est vrai.
Il a sorti le club de Naples qui était vraiment dans les profondeurs. Il en a fait le champion d'Italie et c'est une idole à Naples, une idole totale à Naples.
Oui, champion d'Italie, champion européen.
Incroyable.
Il y a son portrait dans les églises.
Voilà.
Il faut voir ce que c'est. C'est-à-dire que là aussi, je disais la légende tout à l'heure, si on prend le modèle des mythes de l'Antiquité, il incarne exactement ça. C'est-à-dire que c'est un humain. Qui par ses talents va accéder quasiment au stade de demi-dieu comme Hercule ou comme Thésée dans les légendes mythologiques et qui ensuite est rattrapé par le destin des hommes avec tous les malheurs et toutes les souffrances qui s'attachent à ce stade de héros. C'est une vie absolument extraordinaire. Et pour compléter ce que disait Jean et ce but qu'on a entendu mais qu'on a l'impression de revoir juste en entendant le commentaire, c'est que dans le même match, il y a le pire et le meilleur, c'est-à-dire ce but qui est l'un des plus grands buts de l'histoire du football. Et d'un autre côté, en première mi-temps, ce but affreux marqué de la main qui est une tricherie honteuse. Et donc que le même homme soit capable de faire ça dans le même match, ça c'est vraiment la légende de Maradona.
La main de Dieu, justement, on va l'écouter contre l'Angleterre lors de la Coupe du Monde, toujours en 86 au Mexique. Et évidemment, tout le monde voit la main. Mais quand on lui dira « Mais vous avez marqué de la main », il dira « Oui, mais c'est la main de Dieu ». Pierre-Louis Basse est également avec nous, grand fan évidemment de football. Bonsoir Pierre-Louis, merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Vous l'avez rencontré, vous, à deux reprises, je crois, Diego Maradona. Vous l'avez interviewé une première fois en 90, c'était en Italie. Quel genre d'homme était-il ?
Alors, c'était... Je parlerai d'espièglerie pour en revenir sur le but contre l'Angleterre en définitive, parce qu'autant la main est finalement comme un jeu, il faut bien le comprendre, et l'autre but est en effet une performance hallucinante, mais elle résume le personnage. Je l'ai rencontré au moment où, savez-vous, où on se disait que peut-être il viendrait à Marseille. Est-ce que c'était un coup de bluff, de tapis ou pas? En tout cas, Sacco m'avait dit écoute, file à Naples. Je suis parti à Naples, alors mes souvenirs, je ne sais plus si c'est avant ou après la Coupe du Monde que nous avions commenté et où je l'avais rencontré également là-bas. Toujours est-il que je suis parti à Naples et c'était, bon, bien sûr, c'était une folie, oui. Mais pas seulement une folie.
Oui.
Vous voyez, quand vous arriviez à San Paolo au stade, Corrado Ferlaino, le président, qui avait des liens, on sait, avec la mafia, m'avait accompagné vers le match. Vous arriviez à Naples, c'était la revanche du Sud contre le Nord. Ça a été ça aussi, Maradona.
Oui, oui.
Donner au Sud ce dont il était privé. Et donc, on s'est retrouvés, on l'attendait, il ne revenait pas de vacances, et je me suis retrouvé en effet dans son garage, un truc complètement hallucinant. Et puis finalement, ça n'a pas duré trop longtemps, ça c'était plus folklore. Je l'ai revu après la finale de 90, et voyez-vous, c'était vraiment... Et là, on voyait la sincérité de ce type. Moi, j'invite tous ceux qui s'intéressent au foot, s'ils ne l'ont pas vu, à voir les docs et puis le film de Kusturica.
Oui, bien sûr, formidable.
Avec ses filles. Il y a quelques rejetés, s'il n'avait pas été Maradona. Ouais. Il y a ce gamin, le Boca, qui n'a jamais oublié ce qu'il était. Il était cela, Maradona. Et quand, en 94, la FIFA l'a exécuté pour des... soi-disant éphédrine, alors qu'il venait de marquer le but le plus fabuleux contre la Grèce et qu'il était revenu au plus haut niveau après des années de cocaïne. Bon, c'est Maradona, c'est un personnage à la Garcia Marquez ou à la Eduardo Galeano, Jean-Garry avait raison tout à l'heure. Oui. Il entre dans le panthéon aussi romanesque et culturel.
Roustan disait, c'est un personnage de roman, Diego Maradona. Vous restez avec nous, Pierre-Louis Basse, évidemment. C'est notre passé qui s'en va, réagit à l'instant Michel Platini. C'est notre passé qui s'en va. Voilà la réaction qui vient de nous parvenir de Michel Platini. 18h40, vous restez avec nous. On continue de parler de la légende Diego Maradona. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h42, on est toujours en direct avec le débat des grandes voix du jeudi. On continue à parler évidemment de la figure de Maradona, décédé aujourd'hui à l'âge de 60 ans. On l'a appris en fin d'après-midi. On est toujours avec Hervé Gattegno, directeur des rédactions Paris Match et JDD, avec Pascal Boniface, spécialiste de l'économie du foot, avec Jean Garrigue, notamment historien, avec Jean-François Pérez, notre chef du service sport, et puis avec Pierre-Louis Basse, qui nous racontait ses rencontres avec Diego Maradona dans les années 90. Pascal Boniface, je me tourne vers vous et je voudrais, comme j'ai demandé à chacun présent ici en direct avec nous dans Europe Soir, votre réaction d'abord. Est-ce que vous retenez la première image qui vous revient de Diego Maradona ?
C'est la formidable popularité qu'il avait dans son pays, parce qu'il incarnait la revanche du peuple. Et on vient de parler de ses deux buts contre l'Angleterre. C'était effectivement, comme a dit Jean Garrigue, la revanche contre la victoire militaire des Anglais pour la guerre des Malouines qui avait lieu 4 ans auparavant. Et en fait, Maradona avait dit qu'il préférait, vous avez parlé du but maléfique quand il remonte toute la défense et qu'il dérive 7 joueurs, et du but qu'il marque de la main. Et en fait, Maradona disait qu'il préférait le but qu'il avait marqué de la main, parce que, disait-il, c'était comme piquer un portefeuille dans la poche d'un Anglais. Et donc, il avait tout de suite dit que c'était un but géopolitique. C'était pas, il niait le fait qu'on ne mélangeait pas politique et sport. Bien sûr, il avait une envie de revanche. Il y avait aussi une envie de revanche par rapport au fait que l'équipe argentine avait été très maltraitée en 66 pendant la Coupe du Monde qui avait lieu en Angleterre. Elle avait été éliminée suite, disons, à un arbitrage contestable et à domicile. Et un Argentin a été expulsé, il a été traité d'animaux. Donc il y avait vraiment une longue suite de récriminations. Et en fait, Maradona incarnait la revanche de ceux qui n'ont rien. L'Argentine, pays pauvre contre la puissante Angleterre. Et puis l'homme qui est parti de... et qui allait chipper un portefeuille dans la poche d'un Anglais. Et donc c'était tout ça Maradona, c'était à la fois le génie et en même temps le mauvais garçon, mais c'est les deux côtés que les Argentins appréciaient, ils étaient aimés pour les deux choses. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit, il est bien sûr beaucoup plus populaire que Messi, parce qu'il n'a pas seulement fait gagner la première Coupe du Monde à l'Argentine, il a aussi incarné un héros avec ses faiblesses, ses failles, et justement c'est le fait qu'il sorte de l'ordinaire qui fait qu'il incarne et que je pense que tous les Argentins pleurent ce soir.
Et puis c'est aussi une personne, Jean-François Pérez, chef du service sport d'Europe 1, c'est aussi une personne complexe, à la différence d'un Messi ou des joueurs actuels qui sont, comment dirais-je, plus lisses dans l'à côté de leurs exploits footballistiques. Lui, c'était un quelqu'un d'entier, quelqu'un qui avait une histoire, un parcours, et puis qui avait aussi une forme de transgression dans son comportement au quotidien.
Ah, totalement, c'était quelqu'un qui avait l'excès en lui, mais c'était une époque aussi où le football pouvait se le permettre. On n'était pas encore dans les PME ou même les grandes entreprises symbolisées par un joueur comme Messi aujourd'hui, dont le moindre mot est scruté, analysé. Ils sont en quelque sorte prisonniers de leur communication, ces joueurs-là. Maradona, lui, il a toujours été libre pour le meilleur et pour le pire. Et c'est quelqu'un qui a connu à la fois des excès verbaux. Je le disais tout à l'heure, il était parfois grossier, parfois vulgaire, parce qu'il n'avait pas oublié d'où il venait, son bidonville de Buenos Aires. Il a été politiquement ancré très à gauche. Fidel Castro, c'était un peu son père spirituel. Il s'est engagé pour le Venezuela d'Hugo Chavez, puis de Maduro. Donc c'était quelqu'un qui avait des convictions très fortes. Et puis en termes d'excès, oui, c'est quelqu'un qui avait à Naples connu la gloire, mais aussi la drogue. Et c'est ce qu'il a tué quelque part, parce que sans doute tous ces ennuis de santé, ces crises cardiaques, ces hépatites, ces alertes, cet hématome au cerveau qu'il a eu il y a quelques jours et qui a sans doute été la cause de sa disparition, tout cela a été causé par son mode de vie trop extravagant, mais il est mort comme il a vécu. Voilà, et il fallait que ce soit comme ça, et il fallait ça pour qu'il y ait des ex-voto à Naples, pour qu'on aille prier pour Maradona, devant des images de Maradona, et il fallait cela pour qu'il y ait l'église maradonienne en Argentine qui existe encore aujourd'hui.
Alors Jean-François Pérez, vous restez avec nous. Je ne sais pas si vous qui nous écoutez, vous le savez, mais il a failli aussi, Maradona, jouer à Marseille. Il en a d'ailleurs parlé à l'occasion d'un match amical France-Argentine. Écoutez.
La vraie que...
On me reçoit comme si j'avais joué à Marseille. J'étais proche de Bernard Tapie pour venir jouer à Marseille, mais ça ne s'est pas fait.
Voilà, ça a failli se faire, mais ça ne s'est pas fait. Vous le saviez, c'est Hervé Gattegno ?
Oh ben, on savait que ça a été un petit feuilleton pendant quelques semaines. Simplement, c'est vrai que Pierre-Louis Basse le suggérait tout à l'heure avec Tapie à cette époque-là. On pouvait toujours se demander s'il n'y avait pas un coup de bluff. Néanmoins, c'est vrai que s'il y avait un club en France qui était susceptible d'accueillir Maradona dans ces années-là, c'était l'Olympique de Marseille, parce qu'il y avait la ferveur, il y avait cette espèce de magie qui fait que le foot prend une autre dimension là-bas. Et incontestablement, si Maradona était venu à Marseille, il aurait été l'idole, là aussi, de tout un peuple, comme il l'a été à Naples, d'une certaine manière.
Ouais, il aurait représenté, là aussi, on parlait de cette revanche du Mezzogiorno du Sud contre les clubs italiens du Nord. Il fallait voir la tension qu'il y avait dans les matchs avec les clubs de Milan ou de Turin et Naples, qu'incarnait totalement Maradona. Ben là, ça aurait été la même chose avec l'OM. Il aurait incarné la revanche des Marseillais contre les clubs, contre Paris et les autres clubs, même si Paris à l'époque n'était pas forcément au-dessus. Mais voilà, il y avait quelque chose en lui, cette capacité à incarner quelque chose, puis ce côté rockstar, parce que moi je pense tout de suite qu'il a une vie de rockstar.
Mais comme on sait que la Camorra payait une partie de son salaire, on peut se dire, et là pour le coup c'est heureux, qu'à Marseille, dans ces années-là, et malgré tout ce qui a pu être dit parfois à juste titre sur les années Tapie, cette chose-là n'était pas possible. Il n'y avait pas l'équivalent à Marseille.
Oui, mais la Camorra devait payer sacrément cher pour garder Diego Maradona à Naples.
À Naples, ils ont payé très cher, mais ça leur a rapporté beaucoup.
Vous restez avec nous, 18h48, on se retrouve dans quelques secondes pour continuer à parler de Maradona.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h51, on continue notre spécial avec les grandes voix du mercredi pour parler de cet homme, cette légende. Diego Maradona, il est décédé aujourd'hui à l'âge de 60 ans, après une carrière complètement folle. On en parle donc avec Hervé Gattegno, notamment directeur des rédactions Paris Match JDD, avec Jean Garrigue, historien, avec Pascal Boniface, qui est toujours avec nous, spécialiste de l'économie du foot, avec notre chef du service des sports, Jean-François Pérez, et avec Pierre-Louis Basse. Tiens, une question d'ailleurs pour vous, Pierre-Louis Basse, sur l'histoire de Maradona. On a beaucoup parlé de sa carrière sportive, mais ce qu'il faut rappeler, Pierre-Louis, c'est qu'il vient d'une famille modeste. Il a grandi dans un bidonville de la banlieue sud de Buenos Aires. Sa mère fait des ménages, son père est dans la construction. C'est un élève plutôt médiocre et il apprend le football en jouant dans les bidonvilles avant d'être repéré, je crois, à l'âge de 10 ans.
Oui, alors c'est dommage, je voulais vous parler du jeu, moi, plutôt que de cette histoire qui, bien sûr, en effet... Vous avez raison de souligner cette déshérence totale de Maradona. D'ailleurs, il revenait dans ce quartier, dans cette famille, même pas une bicoque, où il y avait à peine l'eau pour survivre. Et c'est là qu'il a grandi. Mais son papa l'accompagnait à des entraînements. Et bon, il jouait au ballon comme un chat peut jouer avec...
Oui.
Avec une petite souris. Mais si vous me permettez, je voudrais dire un mot sur le jeu.
Je vous en prie, allez-y, Pierre-Louis.
Et sur ce qu'il était, avec deux anecdotes. Vous savez, Platini a des yeux derrière la tête. Zidane est un homme qui voit à gauche et à droite. Lui, c'était un homme qui... Il n'y avait même pas le ballon. Le ballon lui appartenait. Le ballon faisait partie de son corps. À Naples, où il allait rarement aux entraînements, je me suis trouvé un jour au bord du terrain où il s'entraînait et il se roulait dans l'herbe avec le ballon. Et vous auriez cru voir un enfant de 10 ans qui joue au cours d'un pique-nique au bois de Boulogne avec ses parents. Il n'avait pas changé. Et En 86, il avait Borussiaga comme lieutenant, grand joueur. En 90, c'était Caniggia. Mais à chaque fois, c'était le même personnage qui était intenable, littéralement intenable. Et c'est dans cela qu'il est aussi un génie du jeu et du football. Il a réinventé à sa manière, petit comme il était, le rapport au ballon, oui. Quand on dit la pelota, et le rapport au jeu. Et ça, c'est quelque chose de bouleversant de l'avoir perdu. Car il était le football.
Oui, voilà. Il était le football. Merci Pierre-Louis. Bah, Jean-François Pérez, vous êtes toujours avec nous en direct de Marseille. Et vous vouliez, je crois, réagir à ce qu'on disait tout à l'heure sur ce moment de négociation qui a eu lieu entre Tapie et Maradona et qui aurait pu amener à recruter Diego Maradona à Marseille.
Oui, ça a été une sacrée histoire et Pierre-Louis a bien connu ça aussi. Il faut savoir que Tapie demande à ce moment-là à Michel Hidalgo, qui était le directeur sportif de l'OM, d'aller tenter le coup. Il lui prête son avion et Michel Hidalgo part à Naples. Sans savoir très bien ce qu'il va trouver, à part un agent qui est censé faire le contact avec le joueur. Et Michel Hidalgo arrive donc à Naples, devant la villa de Maradona. Il est accueilli, mais le problème, c'est qu'il y a une fête de famille ce jour-là. Diego Maradona baptise sa fille. Donc du coup, il y a des dizaines de personnes un petit peu partout. Et quand Michel Hidalgo, qui est quand même quelqu'un de très connu à l'époque, hein, il était le sélectionneur de l'équipe de France, de la grande équipe de France de Michel Platini, tout le monde commence à paniquer en disant « Mon Dieu, mais si on apprend que Michel Hidalgo est ici à Naples pour négocier le transfert à Marseille, ça va être une catastrophe. » Donc on met Michel Hidalgo dans la cuisine de Diego Maradona.
Oui.
Diego Maradona s'occupe de ses invités et de temps en temps il passe et il dit « Monsieur Hidalgo, j'arrive, hein, surtout ne partez pas. » Et Michel Hidalgo essaie de convaincre Maradona de venir à Marseille. Il lui fait miroiter une villa à Cassis avec vue sur la mer, avec une piscine, avec des palmiers. Maradona lui dit « Oui, oui, je veux partir de Naples, je veux venir à Marseille, je n'en peux plus de cette pression. » Et hélas, sans doute la Camorra a mis son veto à la venue de Maradona à Marseille. Ça n'a pas pu se faire jusqu'à 2009 quand il était venu comme sélectionneur de l'Argentine et qu'il avait prononcé ces mots « Je me sens comme chez moi, j'étais à deux doigts de venir à Marseille. » Ça aurait été une belle histoire.
Merci pour cette anecdote. C'est vrai que ça aurait été une belle histoire. Merci à tous les quatre de m'avoir accompagné pour animer ce club des grandes voix un peu particulier. Hommage donc ce soir à Diego Maradona et on va continuer évidemment d'en parler toute la soirée sur Europe 1. Écoutez cette chanson, la Mano Negra qui rend hommage aussi à Diego Maradona d'une autre manière que rock'n'roll, me direz-vous. Santa Maradona chantait la Mano Negra. Musical. Restez avec nous dans quelques secondes le journal, on reviendra sur Diego Maradona et puis deux invités d'exception tout à l'heure, Alain Giresse et Luis Fernandez qui seront mes invités pour évoquer la figure et la légende de Diego Maradona. À tout de suite.